Je suis Younes Algarty, Managing Director d'Avisio Mentoring, la solution d'accompagnement personnalisée par les meilleurs managers de la tech. Dans Lieutenant, j'ai décidé de mettre en lumière les premiers employés des grosses startups et scale-up qui cartonnent aujourd'hui et jouent un rôle clé dans l'ombre des fondateurs. Tous les 15 jours, je leur donne le micro pour vous offrir leur version opérationnelle et concrète de l'histoire. Ils vont nous dire quels outils, méthodes et erreurs ils rencontrent sur le chemin du succès. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Aujourd'hui, dans cet épisode de Lieutenant, j'ai la chance de recevoir Anto Chong de Grotte, fondatrice de Lago, ex-VP Growth et première employée de la méga licorne Conto. Bonne écoute. Salut Anto.
Salut Younes.
Anto, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'une période précise de ta carrière professionnelle. On va parler de ton passage chez Conto, où tu étais la première salariée. Et on va discuter ensemble des coulisses opérationnelles de comment est-ce qu'on fait pour scaler une aussi belle success story de la tech européenne. Et ensuite, on va discuter ensemble de comment est-ce que ça t'amène à devenir entrepreneuse et à monter ton propre projet. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire en deux mots qui tu es, Anto ?
Je m'appelle Anto Chong, je suis la cofondatrice de Lago. Donc Lago, c'est une plateforme de Customer Data Orchestration. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut juste dire qu'on aide les entreprises à leverager leur Customer Data pour mieux activer leurs clients. Et j'ai cofondé Lago avec quelqu'un qui s'appelle Rafi, qui est une des premières personnes que j'ai recrutées chez Conto. On a créé la société en mars et on a fait Y Combinator en juin cet été.
Canon, donc il y a déjà une mafia Conto d'entrepreneurs qui se trame. Top, back to Conto, est-ce que tu peux nous dire combien vous étiez quand t'es arrivé ?
En fait, moi j'ai rencontré les fondateurs de Conto quand ils étaient en train de revendre leur entreprise précédente, qui est un peu moins connue, qui s'appelait Smokio, qui était une cigarette pour arrêter de fumer.
Électrique et connectée, si je m'abuse.
Électrique et connectée pour arrêter de fumer, en effet. Et c'était une période où moi, j'avais travaillé pour deux startups à des stades différentes. Une française qui s'appelait Meljet, qui était une des premières startups D-Founders, de la série A à la série B. Et ensuite, j'avais lancé Weebly en France, qui est une startup de Y Combinator aussi, backed by Sequoia, qui a été acheté par Square entre-temps, qui était plutôt autour de la série D. Et j'avais vraiment envie de créer ma boîte. Et d'ailleurs, c'était l'idée que j'avais avant même de rejoindre les startups, quand j'étais en conseil chez McKinsey. Et la conclusion que j'avais eue chez McKinsey, c'était que je ne savais pas faire grand-chose, à part des slides et des Excel. Et je m'étais dit qu'il fallait que j'apprenne chez des startups existantes. Donc là, j'en avais fait deux. Je m'étais dit, je peux apprendre continuellement ou bien vraiment me mettre à monter ma boîte. Et là, j'ai commencé à faire du co-founder dating. Donc, rencontrer plein de co-founders potentiels. C'est une période à la fois super exaltante, puisque tout est possible, et à la fois un peu perturbante, puisque tout est possible, mais rien n'est vraiment fait. Donc, on rencontre des gens, on parle d'idées, mais il y a beaucoup de moving parts entre les idées et les gens. Enfin, est-ce que ça fit avec les personnes, est-ce que ça fit avec les idées ? Dans ce process-là, j'ai revu quelqu'un qui s'appelle Rafi Cambert, qui était partenaire d'Alven à l'époque et qui a maintenant monté son propre fonds, qui s'appelle Singular, qui était au board de Medjet, donc que j'avais rencontré dans ce cadre-là. Et il m'a demandé ce que j'aimais en termes de secteur, et je lui ai dit la fintech et la santé. Et à ce moment-là, il m'a dit, il faut que tu rencontres Jean-Charles Dallan et Alexis Steve pour Conto. Et c'était au tout début des deux aventures. Et donc avec Alex et Steve, on a fait les premières user interviews de clients à propos de la banque, dans un cadre assez hyper informel. Donc la boîte n'était même pas créée, je pense qu'ils n'avaient pas encore vraiment décidé de le faire. Et ça a bien fité, et j'ai bien aimé le sujet. Donc j'ai pesé le pour et le contre de monter ma propre boîte versus rejoindre un projet. Et finalement, je les ai rejoints. Je pense que j'avais envie de faire le 0 to 1 et d'apprendre cette phase-là. Donc c'est peut-être mon côté éternelle étudiante de me dire je vais faire toutes les phases avant de monter ma propre boîte. Et du coup, ben voilà comment j'ai rejoint Compto. Donc techniquement, il n'y avait personne puisqu'il n'y avait même pas de, boîte, quoi.
D'accord. Donc, vous bossiez à trois finalement.
J'ai plutôt fait des user interviews avec Alex, mais oui, après on débriefait avec Steve. Et ouais, je les ai rencontrés, je leur ai dit, écoutez, moi je demande pas forcément à être payée, regardons si ça fit bien ensemble. Et je leur ai fait une liste de personnes qu'on pouvait aller interviewer, une sorte de questionnaire. Et après, on est juste allé interviewer des gens ensemble.
Donc à ce moment-là, ton rôle n'est pas encore défini?
Non, et puis c'est très... comme je faisais pas mal le co-founder dating, c'est jamais très défini ces phases-là. Et je pense que tous les gens qui ont monté une boîte ou qui considèrent monter une boîte connaissent cette phase où bah, rien n'est défini, personne ne sait si on va vraiment se lancer, personne ne sait si c'est vraiment l'idée, personne ne sait si la personne veut se lancer avec l'autre personne. Enfin, c'est vraiment le flou total, un peu comme dans la vie amoureuse finalement, où au début on ne sait même pas si on est potes ou pas. Enfin, voilà quoi. On ne sait pas si on veut vivre dans le même pays, si on veut des enfants. Bon, bref, c'est vraiment une période très... C'est le début, quoi.
Et alors, qu'est-ce qui fait finalement que tu te mets à fond sur le projet, que tu dis à Alex et Steve, qu'on salue au passage, go, c'est avec vous que j'ai envie de monter un business?
Bah, je pense qu'on a eu cette période un peu flottante et à un moment... Alors, je ne sais plus exactement. Je pense que c'était un des anniversaires d'une soirée de Stripe où on y allait tous, tous les trois, mais un peu séparément. Et parce que ben, moi, dans mon optique de co-founder dating, j'essayais de rencontrer des co-founders potentiels. À l'époque, il y avait quand même beaucoup d'événements, il n'y avait pas le Covid, donc c'était un bon moyen de revoir les gens. Et ils m'ont demandé s'ils pouvaient me parler un peu avant et en gros ils m'ont dit c'est sûr qu'on va lancer ça s'appelait pas Compto, ça s'appelait FinPal et c'est sûr qu'on va te faire une offre donc discutons-en de manière plus posée quoi. Donc ça permettait de un peu jouer carte sur table comme dans un peu toute relation où à un moment quelqu'un dit écoute j'ai envie de faire quelque chose avec toi et voilà quoi. Donc ça s'est passé comme ça.
Et donc
dans le code BPI France, je pense.
D'accord.
Exactement. France.
Et alors là, vous vous dites oui. Est-ce que tu sais quel va être ton rôle concrètement ou pas encore?
Non, pas tellement. Mais je pense que et je le vois maintenant que je suis fondeur. Je pense que j'avais vraiment l'attitude de peu importe ce que je fais, en fait, du moment que moi j'ai envie de faire le 0 to 1, donc je ferai whatever it takes pour l'amener au 1. Donc ça, le rôle m'importait peu. Après, comme toute personne un peu ambitieuse, j'avais envie d'être dans un rôle dans lequel je pouvais briller, donc qui utilisait mes forces. Donc, on n'avait pas vraiment défini le rôle. On savait que ce ne serait pas codé, par exemple, mais ce serait autour de go-to-market et operations. Et honnêtement, j'ai fait un peu tout au début. Et je me souviens, la première fois que je suis arrivée au bureau, Alex m'a dit, en gros, tout ce qui n'est pas codé, c'est toi. Et voilà, quoi. Donc, et ça m'allait très bien. Je pense que... si j'avais voulu un rôle très cantonné, je serais retournée dans une start-up série D à San Francisco et voilà quoi.
Et c'était pas du tout ton truc?
C'était... non, je pense que ça peut être mon truc, c'est juste que là j'étais... j'étais vraiment sur le chemin de je veux monter ma boîte un jour et je veux me rapprocher à... j'étais plus dans je me rapproche du zéro que de la série, que de l'IPO. Je voulais vraiment voir comment on crée quelque chose de zéro. Et je pense que c'est la phase qui me fascine le plus. Et toutes ces expériences m'ont appris aussi à mieux me connaître. Et je pense que moi, ce que j'adore, c'est construire, un peu moins renaître les choses. Je pense que c'est quelque chose qui m'attirait moins dans les grosses entreprises dans lesquelles j'ai commencé ma carrière ou dans le conseil en strat. Moi, j'aime bien builder et trouver quelqu'un qui sera rené après le projet et aller au prochain, la prochaine chose qui est à construire.
Ok, voilà. Et finalement, tu as fait combien de temps chez Compto?
En tout, 3 ans.
3 ans. Sur ces 3 années, tu dirais que tu as eu combien de jobs?
Franchement, je ne sais pas, une dizaine. Mais après, tout dépend de la notion de job. Alors, je ne saurais pas la caractériser, mais... et puis dans un job, il y en a combien, donc je comprends la question, mais en gros, les early employees ont beaucoup de casquettes.
Ok, et alors, si on parle en termes de grands domaines, moi, la notion que j'ai, c'est que tu as beaucoup exercé en growth chez Conto. Tu as eu quel genre de casquettes, si on parle en grand domaine, métier?
Bah, il y a... Déjà, la growth, c'est quelque chose de très... Enfin, diffus en fonction des entreprises. Ça peut vouloir dire quelque chose dans une entreprise A et quelque chose de totalement différent dans une entreprise B. À l'époque où j'étais chez Conto, ça comprenait à la fois la partie pure marketing, donc le branding, les partenariats, tout ce qui est PR, communication, et aussi la partie très chiffrée de acquisition, activation, revenus. Donc en fait, mes deux gros KPI, c'était la notoriété de Conto, la qualité des partenariats, et le deuxième, c'était le revenu. Donc voilà, c'était une casquette assez large, mais qui, moi, me plaisait dans le sens où j'ai un côté très process, rigoureux, etc., et un côté aussi plutôt créatif, et je trouve que la growth permettait d'allier les deux à la fois, quoi. Parce qu'une campagne réussie, c'est une campagne hyper bien ciblée, hyper bien exécutée, mais aussi... À un moment, on parlait des humains, donc il faut avoir le bon ton, le bon message, arriver au bon moment, etc. Donc voilà.
C'est vrai que notoriété, revenu et partenariat, il y a beaucoup de boîtes où c'est trois métiers finalement.
Exactement, exactement.
Et est-ce que il y a une de ces trois spécialités qui te plaît plus que les autres?
Honnêtement, je ne suis pas sûre parce que... Alors, c'est peut-être mon profil qui est un peu bizarre, mais moi, j'adore les choses très mateuses et les choses très créatives. Donc, je peux, à 10h, co-écrire une tribune pour, je ne sais pas, Sifted, et à 11h, j'adore m'extasier devant des cohortes. Peut-être pas. Extasier, c'est un peu fort, mais pour une raison que j'ignore, j'adore les cohortes de SaaS. Donc voilà, j'adore le côté très un peu data mateux, process, et à la fois créatif quand on crée une nouvelle campagne, quand on pense à un partenariat. Donc en fait, ce que j'aimais, c'était le côté assez large du job, et je pense qu'un des avantages d'arriver tôt, c'est que, et que j'essaie de transmettre à mes candidats en entretien aujourd'hui, c'est qu'on peut façonner le job un peu à sa façon. Que c'est un moment unique pour façonner, se placer là où on est le meilleur, en fait, ou ce qu'on préfère.
Ok, et tu nous as parlé des différentes boîtes par lesquelles tu es passé avant. Est-ce que les expériences que tu as eues dans ces boîtes t'ont servi à tes débuts, ou est-ce que vraiment tu as dû tout reprendre de zéro?
Non, je pense que ça m'a beaucoup servi. Je pense que à la fois Mailjet et Weebly, c'était des... Tous les deux étaient des SaaS B2B self-serve. J'avais travaillé en go-to-market pour les deux. Et même, je pense que dans la founding team, j'étais la seule qui venait du SaaS B2B. Et en particulier, le SaaS B2B self-serve, plutôt prosumer. Donc clairement, il y avait des réflexes, un écosystème que je connaissais extrêmement bien et qui est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai atterri là, je pense. Donc clairement, ça m'a servi, et je pense que... Aller directement de McKinsey à Conto, à ce stade-là, ça aurait été possible, mais plus complexe, je pense.
Ok. Donc, si on reprend un peu les premiers jours chez Conto, comment on fait pour avoir les premiers clients?
Nous, on avait créé un site web et une waiting list avant même que le produit soit prêt, puisqu'en fintech, ça prend un petit peu de temps quand même. Même si on est très rapide, ça peut prendre jusqu'à un an. Et du coup, on avait 3000 personnes qui étaient sur la waiting list. Donc mon job pendant ce moment où le produit était créé, c'était d'aider dans la construction du produit. Donc il y a plein de choses qui ne sont pas codées, qui sont autour du produit. Donc notamment le process de dépôt de capital social en ligne qui était fait avec certains notaires était assez manuel au début, donc sur lequel j'ai pas mal travaillé. Mais une grosse partie de mon job aussi, c'était de faire la demand generation, donc avoir des gens qui s'inscrivent sur la waiting list et ensuite de les qualifier et de continuer à les nourrir et les engage. Je fais beaucoup d'anglicisme, je suis désolée, mais pendant cette période-là d'attente. Donc voilà, ça peut passer par... par exemple, on a eu de la presse avant même qu'il y ait une levée annoncée ou un lancement annoncé. Parce que j'avais développé ma présence en ligne d'Alex sur Twitter. Il y avait pas mal d'événements auxquels on était présents. Il y avait les communautés dans lesquelles on était impliqués. On avait commencé à faire du contenu, des événements, etc. Donc on avait commencé à faire parler de nous avant même qu'il y ait du produit. Ensuite, j'avais scoré la liste d'attente des users pour les gens, entre guillemets, influenceurs VIP. J'avais continué à les tenir au courant avec des messages très personnalisés. Et ensuite, j'avais identifié des bons alpha testeurs. Donc un bon alpha testeur, c'est quelqu'un qui a du temps, qui est assez genuinely vraiment excité par le sujet. Et idéalement, qui n'est pas trop visible et très patient. Pourquoi ? Parce que au début, dans une alpha, il y a énormément de bugs. Donc, il faut des gens très très patients et qui ont vraiment envie de passer du temps avec nous. Et donc, c'est pas forcément la personne qui a 15 millions de followers. C'est plutôt une personne qui a vraiment un intérêt très candide pour le sujet. Et donc j'avais identifié ces personnes-là et j'avais... le message était différent pour ces personnes-là, on les invitait au bureau, on a partagé avec eux les avancées, etc. Mais c'était... Il y a cette période de scoring, de priorisation des gens qu'on allait onboarder qui était aussi importante. Ce qui était cool, c'est que comme le produit prend un peu plus de temps en fintech et comme je suis arrivée tôt, du coup j'ai eu le temps de le faire. Et c'est un travail assez hyper manuel qui était... dur à scaler, mais qui en valait la peine.
Hyper intéressant. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent dans la tech et qui se posent la grande question de, une fois que mon produit est live, à combien je le vends ? Comment est-ce que vous avez fait pour répondre, vous, à cette question du pricing ?
C'est toujours une question, je pense que je connais aucune équipe des SaaS, d'un SaaS ou d'une fintech qui ne se pose pas cette question quasiment tous les jours. Je pense qu'on s'était dit qu'on voulait un plan à moins de 10 euros pour que ce soit no-brainer.
Qui existe toujours d'ailleurs, je crois.
Qui existe toujours, oui, il y a eu d'autres plans entre-temps, mais parce qu'à un moment, un peu d'upsell, c'est sûr, mais c'était un peu... Je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais Big Mama qui a sa margarita à 5 euros, il fallait le plan à 9 euros. Donc au début, il y a beaucoup d'intuition. Et je pense qu'on peut lire beaucoup d'études, on peut faire des projections, des BP, etc. Mais honnêtement, au début, il y a de l'intuition. Et le plus... Il faut juste avancer sur une intuition et la tester le plus rapidement possible. Et on peut faire beaucoup d'analyses à la McKinsey entre-temps, mais... Il faut juste sortir quelque chose et le tester.
Quand tu dis qu'il faut tester, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas avoir peur de changer.
Exactement, il ne faut pas avoir peur de changer.
Et comment on décide de changer ?
Je ne sais pas s'il y a une recette sur ça. Je pense que, et je le vis aujourd'hui en tant que founder, je pense que, on ne sait jamais si on a raison ou pas, en fait. Et je pense que tout le monde se reconnaîtra dans cette phase. Et on sait juste qu'on a l'intuition à un moment qu'il faut changer quelque chose. Et on teste, et voilà, et il y a des choses qui marchent plus ou moins bien, et voilà, je pense pas qu'il y ait de recettes, surtout en early, mais même après, quand il y a énormément de data, on peut tellement dire des choses différentes avec la data, en fonction de la question qu'on pose, que je suis pas sûre qu'il y ait une recette claire, en fait.
Ok, c'est beaucoup de tests, et j'imagine c'est aussi beaucoup d'écoute de clients. Je reviens notamment à la notion de waiting list sur laquelle tu évoquais tout à l'heure le fait que vous étiez arrivé à 3000 personnes et que tu avais repéré certains testeurs alpha avec lesquels tu as beaucoup discuté. Comment est-ce qu'on fait pour transformer cette liste le jour où on appuie sur le bouton et on dit « ça y est, c'est live, mon produit est prêt, je peux vous ouvrir un compte ».
Ça se fait progressivement. Donc, il y a la phase très alpha où il n'y a même pas de sign-up sur le site. où on ouvre l'ouverture de compte. Donc c'était pré-Covid, hein, donc on faisait venir les gens au bureau, on leur ouvrait un compte. Il y avait un dev back-end à côté de moi qui ouvrait le compte. À chaque étape, peut-être pas à chaque étape, mais à toutes les trois étapes, il y avait un petit bug et il le corrigeait à côté de moi. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la personne ne vient pas au bureau, on arrive à le faire à distance. Et l'étape ultime, c'est il y a du self-serve. Donc pour lancer, en fait, on avait gardé toutes les nouvelles de lancement officiel pour quand le produit serait prêt. Pas très français cette phrase, mais vous me comprenez.
Non, je comprends.
Et du coup, ça nous a permis de faire un lancement RP avec l'annonce développée. On avait fait une soirée de lancement à The Family, on avait invité tout le monde. On avait prévenu les gens de la communauté un peu avant. Donc voilà, voilà comment on convertit. Donc je ne me souviens pas exactement de qui on a converti. Parce qu'il y a eu les gens de la waiting list et il y avait les nouvelles personnes qui étaient attirées par la campagne de lancement officiel.
Ok. On va peut-être avancer un petit peu dans le temps de ton passage chez Conto. Est-ce que tu as une idée du nombre de personnes que tu as recrutées chez Conto ?
Directement, je dirais une vingtaine. Après, au tout début, on était tous impliqués dans la partie faire les choses qui codent, enfin
les choses non codées,
ouais,
tout ce qui est hors tech,
le hors tech exactement. Du coup, j'étais impliquée dans les process de recrutement pour plutôt le côté ops, plutôt d'autres postes que purement le go to market. Donc je me rappelle avoir fait des job descriptions de risk officer ou compliance officer, et je me rappelle très bien demander à Alex quelle était la différence entre les deux. Donc directement, en tout cas pour mon équipe, on était une vingtaine quand je suis partie, et après il y avait du recrutement indirect de d'autres personnes qui reportaient directement au founder, le temps qu'il y ait par exemple quelqu'un pour gérer les ops.
Et du coup, c'est intéressant ce que tu disais sur les jobs qui sont très techniques et qu'on maîtrise pas forcément. Qui est-ce qui était un peu le référent sur ces sujets-là pour savoir qui est mon bon risk officer, qui est mon bon compliance officer? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait assez de background bancaire pour pouvoir tester ça?
On a eu la chance d'avoir Germain, que je salue, qui venait de Compte Nickel, qui était une des premières fintechs françaises, qui a été achetée par BNP Paribas. Qui connaissait assez bien ces métiers-là et qui a toujours été extrêmement patient et pédagogue avec nous et avec moi, et qui nous a aidé aussi à mieux comprendre certaines façons de procéder, certains métiers.
Ok. Si on revient aux équipes que toi, tu as eu à gérer, comment est-ce que petit à petit, tu as construit ton équipe? Quel sujet, quel profil?
Je pense qu'au début, on cherchait des généralistes. Quand moi, j'avais assez travaillé un process pour qu'il soit répétable, il fallait que quelqu'un prenne le relais. Donc, j'ai un exemple en tête qui est celui du partenariat avec Legal Start. Donc, avec Legal Start, c'est possible de créer une entreprise en ligne. Et avec Conto, on pouvait déposer le capital social en ligne. Donc, c'était la première fois qu'on pouvait créer une entreprise 100% en ligne. Donc j'ai beaucoup travaillé avec les équipes de Legal Start sur le terrain, et ensuite, une fois que le process était scalable et que je pouvais le déléguer, on a cherché à recruter pour que quelqu'un puisse le prendre en charge. Donc à ce moment-là, c'est plutôt des profils très project manager généralistes, et au fur et à mesure, on a recruté des profils plus spécialistes. Donc typiquement, une des premières recrues, c'était Rafi, mon cofondateur aujourd'hui, qui est arrivé pour gérer toute la partie paid. Donc c'est une expertise que moi j'avais pas tellement, et que lui connaissait très bien, et donc il est arrivé pour développer toute cette partie là donc d'abord des généralistes, pas forcément très très seniors, avec un peu d'expérience mais pas forcément très seniors, et ensuite des spécialistes sur la partie acquisition. Et je pense que une des choses clés qu'on a faites très tôt, et qui fait écho à ta question de en quoi mes expériences précédentes m'ont aidé, c'est que j'avais vu dans les deux startups dans lesquelles j'avais travaillé à quel point c'était dur de rattraper une dette technique en termes de data. À quel point si les équipes business n'avaient pas un moyen relativement simple de prendre des actions sur la data, donc typiquement de pouvoir créer des segments facilement de clients qui n'étaient pas activés et de créer je sais pas, une campagne d'email, une campagne d'ads, une campagne d'alerting dans l'outil de Customer Success, ben, cette dette allait devenir de plus en plus importante. Donc je l'ai vu dans les deux entreprises dans lesquelles j'avais travaillé, et à chaque fois que j'avais rencontré ce problème et ce défi, et à chaque fois que je voyais à quel point c'était dur de rattraper ensuite, je m'étais dit, bah, le jour où je suis au tout début d'une boîte, que ce soit la mienne ou pas, je vais tout faire pour que la stack data elle soit propre et la plus efficace possible dès le premier jour. Et donc, dès le début, on a mis en place un système, un plan de tracking très... Enfin, on y a pensé, en tout cas. Et il y avait un owner dans mon équipe en charge de le maintenir et de faire en sorte qu'il soit... Ben, propre et lisible et utilisable. Donc je sais pas si toi t'as déjà rencontré le problème, mais c'est quand le plan de tracking n'est pas pensé, c'est en fait on se retrouve à traquer de la donnée et on sait pas à quoi elle correspond, et du coup tout est inutilisable. Et une fois qu'il y a un doute dans la donnée, c'est ça se propage comme comme tout virus et on commence à douter de tout. Donc voilà, il y avait des réflexes comme ça qu'on a eu dans l'équipe, et toujours dans le prolongement, on a eu la chance, en tout cas dans mon équipe, d'avoir une équipe technique dédiée qui permettait d'avoir cette approche très data, aussi très data, très outils, très automation, et pouvoir faire beaucoup d'expérimentations très rapidement. Donc voilà.
Ok. Donc toi, tu as choisi effectivement cette trajectoire de recrutement, de commencer au tout début par des généralistes parce que leur job desk pouvait être hyper varié, et d'aller ensuite chercher des talents très spécialisé. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, ces talents, il a fallu que tu leur fasses une proposition et que tu te lances dans le fait de dire c'est cette personne que je veux embaucher. Comment on prend cette décision ? T'as des éléments qui arrivent à te rassurer sur les qualités d'une personne ? Professionnelle, bien sûr.
Je pense que la règle d'or, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc quand il y a le moindre doute, à chaque fois qu'il y a un doute pour un candidat, c'est que en fait il faut pas faire d'offre. Et ça va dans les deux sens. Si un candidat a un doute à propos de nous, ben il vaut mieux qu'il ne vienne pas, en fait. Donc ça, je pense que je l'ai appris, et j'ai dérogé beaucoup de fois à la règle. À chaque fois, je me suis trompée. Je pense que il y a les hard skills, en fait, qui sont qu'on peut évaluer avec un business case. Donc pour moi, un bon business case, c'est un business case court et qui fait référence à ce que la personne va faire dans son job si elle rejoint l'entreprise. Donc pas vraiment un business case à la McKinsey ou BCG qui n'a rien à voir avec le job et qui est plus un peu une évaluation du QI. Et ce qu'on fait aujourd'hui chez Lago aussi, c'est vraiment, si demain tu commences avec nous, voilà à quoi ressemblera ta journée, et voilà ce à quoi tu réfléchiras, et on veut voir comment tu réfléchis à ce sujet-là. Et aussi, ce qu'on dit aux candidats, c'est aussi c'est un test pour toi, pour que tu puisses te projeter dans le quotidien de ce poste, et pour voir si comment toi tu réagis, est-ce que ça te donne envie de te lever le matin ou pas. Donc il y a la partie hard skills qu'on évalue comme ça. Ensuite, la partie soft skills, c'est la partie la soft skills et fit, les deux vont ensemble. C'est la partie la plus dure, je trouve, à tester. Il y a une question que moi j'aime poser, c'est toujours un peu en franglais, mais c'est what do you optimize for. Et je pense qu'en fonction du stade de l'entreprise, les réponses doivent être différentes. Mais une réponse autre que optimiser pour les apprentissages, pour apprendre, en early stage, je pense que c'est la mauvaise réponse. Parce que En fait, le early stage, c'est dur. C'est très instable. Non pas que... Enfin, pas instable dans le sens où on ne sait pas si l'entreprise va... Enfin, quand l'entreprise a levé une certaine somme, on sait qu'elle a du runway pour un certain temps. Mais c'est très instable dans le sens où l'entreprise peut toujours changer d'angle. Elle peut, en fonction du changement d'angle, ben, le travail de la personne peut changer. Donc, il faut être prêt à... Il faut avoir un mindset assez ouvert et de se dire, quoi qu'il arrive, j'apprends plein de choses que je pourrais réexploiter plus tard. Et je prends du plaisir à apprendre ces choses-là. Plus qu'une personne qui est très spécialisée et qui dit, ben, ma passion, c'est le SEO. Et si demain, on a un nouvel angle, en fait, qui n'inclut pas du SEO, ben, elle sera perdue. Donc, voilà.
Et est-ce que tu saurais me dire... ta plus grande réussite en recrutement?
Je pense à avoir recruté mon cofondateur, Rafi. Salut Rafi. Petite anecdote sur Rafi. Alex, mon boss, m'a mis un rendez-vous le jour où je revenais de vacances. Et c'était le matin, et moi je revenais de vacances. Bon, j'avais pas dépilé tous mes mails. Et il y avait Rafi dans le bureau qui venait pour un entretien. Et je savais même pas qui il était, enfin, j'étais même pas au courant. Donc je m'assis autour de la table et je me dis, oula, mais c'était pour quel poste, etc. J'ai encore la tête dans mes vacances. Et là, il me tend un PDF relié avec une petite couche plastifiée. Et il me dit, j'ai fait un audit de la stratégie, de la position SEO et paid de ce que fait Conto Palago aujourd'hui. Et voilà mes recommandations sur comment vous pourriez aller plus loin. Donc voilà, je fais très bien, présente-moi ce que tu as trouvé, ça m'intéresse. Et il m'a présenté un audit de où on en était et vraiment ce qu'il ferait demain s'il était chez nous.
Personne ne lui avait demandé. Hein,
personne ne lui avait demandé, non, mais exactement. Donc j'ai même pas eu à faire un business case. Et il s'est administré son propre business case tout seul. Et donc après ça, bon, ça m'a quand même réveillée, j'ai été bluffée, c'était en été, donc là j'appelle Steve parce qu'Alex est en vacances, et je lui dis il faut absolument que tu vois ce candidat. Rafi dit en fait je pars en Tanzanie ce soir, je suis bon d'accord. Et donc on arrive à le faire revenir au bureau pour qu'il rencontre Steve dans la même journée, 4 heures après. Et on lui fait une offre dans la foulée, il l'accepte. Donc c'était vraiment le recrutement éclair, le recrutement coup de cœur. Zéro doute, et voilà, et c'était vraiment, peut-être pas la plus belle réussite de ma vie, Rafi, mais...
Et pourquoi pas. Ok, si on prend un peu de hauteur sur ton parcours chez Conto, est-ce que tu saurais dire quelles étaient les 2-3 étapes marquantes chez Conto pendant ta présence? Est-ce que... Ça peut être des levées de fonds, ça peut être des objectifs atteints.
Je pense que y a eu le lancement, il y a eu le fait de déjà générer 3000 personnes sur liste d'attente, c'était quelque chose. Mais surtout continuer à générer l'engouement lors du lancement, c'était un moment marquant. Parce que pour être honnête, beaucoup d'entreprises arrivent à générer des milliers de personnes sur liste d'attente. Peu arrivent à ensuite continuer à générer l'engouement. Donc voilà, c'était un moment assez gratifiant dans le sens où, très honnêtement, chaque personne sur la liste d'attente, je regardais sur société.com, sur LinkedIn, sur Twitter, je regardais les articles qu'elle avait fait, etc., pour les scorer. Et j'ai essayé d'automatiser ça. J'avais fait appel à Side, notamment. Okay. Et j'avais essayé de drafter un process. Mais en fait, c'était très manuel, en fait. Il peut y avoir une personne qui sign up avec une holding, par exemple, sur société.com, qui est toute petite. Mais en fait, il faut faire le lien avec le fait que cette personne est, je sais pas, au bord d'une autre startup hyper en vue. Et donc, qu'il faut, entre guillemets, taguer comme influenceur. Et donc, ce travail était très minutieux et très long. Et j'étais très heureuse qu'il paye lors du lancement. Je pense qu'une des autres, un des autres éléments marquants, et quand on est arrivé à plus de 10 millions d'ARR, donc assez rapidement, qui est quand même un moment très marquant pour une entreprise.
C'est un gros marqueur, ouais, 10 millions d'ARR. En combien de temps,
c'est un
tu
gros
disais
marqueur,
rapidement ?
Je pense un an après le lancement.
Ok.
Il y avait ça, il y avait, je pense, j'étais très heureuse d'avoir une stack data assez claire. Bien sûr, elle a évolué entre-temps avec la croissance de l'entreprise, mais je trouvais que, enfin, j'aurais pas pu rêver mieux que, comme stack, en fait. C'était vraiment tout ce que j'avais vu des stacks data, toute la dette qu'il y avait, toutes les frictions qu'il y avait. Ben, en fait, ce qu'on avait fait était peut-être best practice, en tout cas. Enfin, en tout cas, c'est l'image que j'avais de la best practice. Bien sûr, c'était énormément de travail et c'était pas forcément parfait. Mais on avait accès à beaucoup de choses et on avait beaucoup de flexibilité dans la manière dont on testait des campagnes et ça nous permettait d'aller très très vite. Donc voilà.
Ok, et à ces 10 millions d'ARR, à quoi ressemble le rôle d'Anto chez Conto ? T'es devenu manager, j'imagine, déjà, t'as une équipe.
J'avais une équipe. Je pense que c'était la course à recruter des head of.
Ouais.
Donc à senioriser l'équipe et à pouvoir avoir moins de direct reports et faire moins de choses. Je pense que c'est vraiment le moment où il faut être assez discipliné et c'est peut-être ce que j'en retiens, c'est que c'est un moment où il faut arrêter de faire des choses soi-même. Et c'est très dur, en fait, d'arrêter de faire des choses soi-même, surtout quand on a du mal à recruter. Mais on ne peut pas... en gros, on ne peut pas scaler et continuer à faire des choses soi-même à la fois. Donc c'est une période intense en recrutement. Après, j'avoue que moi, j'ai toujours aimé le recrutement. Pourquoi ? Parce que c'est comme du marketing, le recrutement, finalement. Il y a beaucoup de... Il y a la lead gen... Enfin, il y a le sourcing. C'est comme, ben, tu sources un lead, tu le nourris, tu engages. Parfois, il dit non, mais tu dis maybe later. Et voilà, donc c'est quelque chose que moi, j'aime faire. C'est juste le temps me manquait. Et comme je suis assez... Je peux à la fois écrire un mail ou revoir des choses assez chiffrées, refaire une copie de, je sais pas, d'un site ou d'une landing page... Bah, du coup, j'avais du mal à me dire non, mais en fait, ton rôle, c'est plus de faire ça. C'est de, je sais pas, juste recruter l'équipe et s'assurer que les gens qui étaient là soient contents et une direction. Donc voilà, c'est cette tension entre arrêter de faire soi-même, mais faire en sorte que les choses continuent à avancer et recruter l'équipe.
La première fois que tu as recruté un head of, donc ce qui veut dire que tu devenais N plus 2 de certaines personnes dans ton équipe. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta posture managériale ?
Honnêtement, je sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que une des choses difficiles, en tout cas, dans la posture managériale, c'est quand on commence à manager des gens qui font quelque chose que tu sais pas faire. Ça, c'est très dur.
Typiquement Rafi.
Rafi me... Après, une des choses que j'avais apprécié en entretien, c'est... qu'il arrivait à être pédagogue sur des notions que personne ne connaissait. Et je pense que c'est ce qui a... Je pense que c'est un trait aussi de leadership, de réussir à expliquer simplement des choses qui peuvent paraître compliquées aux autres personnes, d'avoir la patience de le faire. Mais oui, enfin, je pense qu'une des choses les plus dures, c'est ça au début, c'est d'apprendre à lâcher prise et de se dire, bah, en fait, il faut que je fasse confiance à cette personne. Non pas que je lui fais pas confiance, mais... En fait, je ne comprends pas ce qu'elle fait. Donc, il faut que je la croie sur parole et on va voir. Donc voilà.
Ouais, donc, l'erreur serait de l'archi-fliquer pour compenser le fait qu'on n'est pas expert sur le sujet et de trouver le bon ratio entre le contrôle et la confiance.
Exactement. Et c'est hyper dur. Et c'est pour ça que le fit est important. Je pense que... Dans les startups, les équipes sont tellement petites qu'il faut être sûr de faire confiance à la personne ou d'avoir envie de lui faire confiance par défaut. Et je pense que c'est pas possible avec 100% des gens sur Terre, donc faut être sûr de vouloir le faire.
Est-ce que il y a un moment donné dans ta carrière où tu as appris à manager, ou c'est vraiment des choses qui se sont faites sur le tas avec les recrutements et quelque part avec les gens que tu as managés directement?
Je pense que ce sont des choses que tu apprends sur le tas. Je pense que il y a quelques startups maintenant qui se lancent dans la formation de manager. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une spin-off d'Avisio qui le fait, mais et je trouve que c'est une excellente idée. Je pense que, surtout en start-up, on est très peu accompagné. Et un rôle de contributeur individuel versus manager, c'est quand même très différent. Donc non, c'était sur le tas. Mais je remercie mon équipe de leur patience d'ailleurs. Mais oui, si j'avais pu être accompagnée, j'aurais préféré. D'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel on travaille chez Lego. Je pense que faire partie des premiers employés, c'est une des positions les plus dures, je trouve, les plus passionnantes, mais très très dures pour les premiers employés, parce que ils sont souvent seuls, ils ont souvent peu de casquettes, il y a énormément d'ambiguïté sur leur rôle. Encore les fondeurs, ils sont seuls, mais il y a une communauté de fondeurs, il y a une communauté de mentors, etc. Or, les premiers employés, il y a un peu moins ça. Donc nous, là, ce qu'on fait pour les premiers employés chez Lego, c'est que en fait, on leur a proposé un coach slash mentor sur leur partie. Donc par exemple, si c'est le front-end, ce sera plus un coach sur le front-end. Si c'est le design, plus quelqu'un qu'ils auront choisi qui est... je sais pas, VP design dans une grosse start-up successful, et qui va les coacher en fait sur leur rôle et sur leur évolution. Chose que nous, en tant que fondeur, Rafi et moi, on ne saura pas forcément faire, parce que c'est pas quelque chose qu'on connaît, et c'est quelque chose qu'on fera jamais aussi bien que quelqu'un qui l'a vécu. Donc je pense qu'il y a des nuggets comme ça d'expérience qu'on a appris en étant employé très early, qu'on essaie d'adresser maintenant qu'on est fondeur.
Voilà. Ouais. Moi, quand je t'entends parler de ça, je bois du petit lait, parce que je suis obligé de saisir la perche. C'est ce qu'on fait justement chez Avisio Mentoring, et c'est ce que je fais moi précisément. Et où effectivement, on travaille avec ce réseau de top managers dont tu fais partie d'ailleurs.
C'est le placement, c'est le moment placement
c'est
produit.
Le moment placement
on
produit,
l'a bien amené ou pas?
Je suis obligé, tu l'as hyper bien amené.
Merci,
et
pour
où,
ça.
En fait, et tu le fais bien. Et du coup, ce que tu dis me parle beaucoup, parce qu'on a accompagné une trentaine de boîtes sur ces sujets, et effectivement, tu vois très très vite la valeur que ça ramène. Mais bon, ça y est, j'ai placé mon produit, on peut passer à autre chose.
Donc voilà, si vos premiers employés se sentent seuls, sachez que c'est un avantage compétitif incroyable en tant qu'employeur. Ne l'appliquez pas trop, parce qu'on veut quand même garder l'avantage compétitif chez Lego.
C'est sûr, et j'allais dire, au même titre que tu disais que pour les entrepreneurs, c'était facile de se retrouver, d'avoir un réseau, de nourrir, etc. Et qu'il y a aussi beaucoup de réseaux aujourd'hui par métier, de communautés, de directeurs commerciaux, de DRH, de directeurs produits, etc. Il ne manquerait pas une petite communauté Slack de first employee? Ce serait peut-être une idée à creuser ça. Si quelqu'un l'écoute et a envie de la lancer.
Peut-être, oui.
Je prendrai un royalty à la fin sur la gratuité totale de la communauté. Est-ce que tu pourrais nous partager un de tes plus gros fails chez Conto?
Alors, il y en a eu beaucoup, et je tiens à le dire parce que souvent l'histoire qui est racontée dans TechCrunch ne reflète pas la réalité du terrain. Mais je pense que celui qui m'a le plus marqué, c'était... on avait recruté un employé très tôt qui était extrêmement talentueux, et on n'avait pas su le retenir. Pourquoi? Moi, je pense que c'était une série d'erreurs, une série de miscommunications, une série de beaucoup de choses. Et j'y pense encore, et je me dis que j'espère que sa carrière est pleine de succès, je n'en doute pas, mais j'aurais adoré continuer à travailler avec lui. Donc voilà.
La rétention des talents.
Exactement.
Ça fait partie des grands, grands problèmes des managers, des directeurs, des RH, des recruteurs. De qui, chez Conto, est-ce que tu penses avoir le plus appris?
Je pense que j'ai appris énormément de, encore une fois, Rafi, mon cofondeur. À la fois sur des domaines du marketing ou de la data que je connaissais pas, mais à la fois en tant que... En fait, Rafi avait déjà créé une boîte en sortant de BTS à Lyon, qui était une boîte de paiement mobile avant l'heure, donc il était peut-être un peu early sur le marché. Et il avait vraiment créé la boîte et continué pendant 2 ans, ils avaient sorti un produit, enfin... c'était très tôt, c'était loin de l'écosystème parisien, c'était loin de toutes les aides. Aujourd'hui, l'écosystème est très centralisé sur Paris, donc il était loin de tout ça et il a quand même réussi à sortir le produit, à avoir ses premiers clients. Donc finalement, quand on a décidé de monter Lago, il en était à sa deuxième boîte et moi à ma première. Donc je pense que je continue à apprendre beaucoup, beaucoup de lui.
Et tu aurais en tête un learning particulier provenant de Rafi chez Conto?
Alors, je ne sais pas si c'est un learning en particulier, mais j'étais juste émerveillée de... Alors, c'était assez intense comme rythme et parfois, Rafi continuait à apprendre continuellement des nouvelles choses. Ou à sortir son cours sur Udemy, sur la BI, alors que objectivement, il était assez occupé et il faisait extrêmement bien son travail en même temps. Donc voilà, c'était pas quelque chose que j'ai appris en particulier, mais c'est juste quand j'ai l'impression d'avoir été bluffée, et j'ai été bluffée lors du premier entretien, donc je découvre des nouvelles choses.
Et t'as essayé, toi, de répéter cette bonne pratique-là de Rafi, qui était de faire l'effort de se former continuellement?
J'ai essayé... je pense que c'est une vraie question dans les startups. En fait, les startups, elles requièrent de se former continuellement. Mais quand la formation, elle n'est pas, entre guillemets, sur le tard, c'est dur de réserver du temps juste pour ça. Parce que le rythme de la startup est déjà tellement intense. Et même en tant que... Même les dirigeants ont du mal à réserver du temps à la formation. Donc j'y ai pensé. Alors, j'ai pas craqué le sujet. Je me rappelle que... J'avais cherché à des organismes de formation chez Conto pour ma propre équipe, pour les former sur Excel ou le SaaS ou des choses comme ça. J'ai pas trouvé quelque chose qui me convenait et j'avais organisé des petites formations moi-même. Ce que j'adorais faire, mais qui entrait pas totalement dans la discipline de « il ne faut plus que je fasse des choses moi-même ». Donc voilà. Donc je pense aussi qu'il y a un créneau sur les formations. Bon, je pense que c'est un créneau qui se développe beaucoup aujourd'hui, mais sur des formations très techniques, pas très techniques, mais liées à un domaine en particulier. Genre quelqu'un qui connaît rien au SaaS, d'apprendre les métriques clés, les techniques clés d'acquisition, de rétention, etc., les acteurs clés. Je pense à un crash course, c'est très utile, hein, même pour préparer des entretiens.
Ok. Si tu compares la Anto qui a commencé son premier jour chez Conto et la Anto d'aujourd'hui, tu dirais que ce serait sur quel sujet que tu as le plus progressé?
Je pense qu'on apprend beaucoup sur soi, en fait. Plus j'avance avec le temps et plus je sais dans quel environnement je performe mieux. Et j'ai été confrontée à beaucoup de situations différentes, donc je pense que c'est surtout ça. Par exemple, je sais que j'aime bien builder et un peu moins runner. Je sais qu'il faut que ce soit à la fois créatif et très scalable, process, etc., matheux. Donc j'essaie de trouver des situations où j'arrive à assembler ces éléments-là, en fait.
Et exploiter ce que tu as repéré comme étant tes plus grandes forces.
Exactement. Et c'est au-delà des forces, c'est les périodes où je suis, entre guillemets, dans le flow et que j'aime bien, en fait. Donc voilà, c'est ces périodes-là.
Ok. On va dire qu'on a fait un bon tour de ton aventure chez Conto. Merci beaucoup pour ça. Est-ce que tu peux nous raconter maintenant, une fois que tu es sur la fin de ton aventure chez Conto, comment ça se passe dans ta transition vers ta création d'entreprise? Est-ce qu'il y a un déclic qui fait que tu as envie de monter un projet? Comment tu arrives à ce projet qui est Lago. Est-ce que tu peux nous raconter ?
Alors, c'est assez chaotique comme parcours. Déjà, je me suis mariée, donc ça, c'est pas du tout le chaos. Salut Thibaut.
Salut Thibaut.
Non, en fait, la timeline, c'est qu'on voulait faire un tour d'Asie avec mon mari. Et on voulait s'installer au Vietnam, qui est le pays de mes parents, mais dans lequel moi, j'ai jamais vécu. Qui m'intrigue et qui est en pleine croissance, enfin avant le Covid en tout cas, et où la tech commence vraiment à émerger. Et j'avais envie de give back, donc pas forcément en créant une ONG ou quelque chose comme ça, mais juste, en fait, le Vietnam a des politiques très actives pour faire revenir les talents de la diaspora qui sont formés ailleurs. Donc voilà, j'ai été en contact avec différentes des fonds, des startups pour revenir au Vietnam, enfin venir au Vietnam. Donc on part le 31 décembre 2019. On passe un mois au Vietnam, tout se passe bien. On va au Myanmar, tout se passe à peu près bien. Alors le Covid n'est qu'une grippe à l'époque. Et on arrive au Japon, donc je rêvais pour l'anecdote, ça fait je pense que 10 ans que je rêve d'aller au Japon, et on avait prévu de passer un mois là-bas, et en fait tout est fermé, donc je pensais qu'il y avait une fête nationale, mais en fait non, c'était à cause du Covid, donc voilà, donc on arrive, tout est fermé, avec Thibaut on se dit bon, on va quand même se balader, aller manger un ramen, enfin faire le truc de touriste. Et on revient, on reçoit un message du Airbnb qui dit « On vous a évacué parce qu'il y a un cas dans l'immeuble. » Et donc on déménage dans un autre hôtel et c'est vraiment la catastrophe en fait. Enfin, tout commence à fermer, on se renseigne avec les personnes de l'hôtel. Ils nous disent « Franchement, on ne sait pas trop ce qui va se passer, il n'y a plus de masque. » On a les parents qui commencent à s'affoler. Et là, on se dit, idée de génie, on va aller à Bali, puisque là-bas, il n'y a pas de Covid. Et il est vrai qu'à l'époque, on ne savait pas que ça allait traverser les frontières. Bon, rétrospectivement, ça paraît très logique, mais s'il vous plaît, il y a un peu d'empathie pour le raisonnement. Donc, on va à Bali. Bon, bien sûr, le Covid nous rattrape. Enfin, bon, il y a le Covid partout. On essaie de rentrer au Vietnam, mais le Vietnam n'accepte plus personne. Long story short, on finit par rentrer en France. De manière très chaotique. On arrivait à avoir un vol, on était sûr qu'au dernier moment. Et comme ça ne se déboucle pas, on pensait que le Covid allait durer 3 mois, mais finalement...
finalement un peu plus.
La vie en a décidé autrement. Et le Vietnam ne s'est pas réouvert. Donc on s'est dit, plutôt qu'attendre indéfiniment, voyons les opportunités qu'on peut prendre en France. Donc j'ai commencé à faire du freelance par opportunité, lorsque je rencontrais des équipes que j'aimais bien, des projets que j'aimais bien. Donc moi j'ai travaillé avec Arthur de Penny Lane au tout début, FinFrog et d'autres entreprises. Et j'ai recommencé ma phase de co-founder dating. Donc je me suis beaucoup intéressée à la personal finance avec Johan Lopez d'ailleurs de Snowball, que je salue.
Salut Johan.
Donc on a travaillé un ou deux mois ensemble, tous les jours, sur un projet d'app, fintech, personal finance.
J'ai fait partie de ta user research d'ailleurs, j'avais reçu un message de toi sur LinkedIn.
Oui, tout à fait. Et je pense que, en fait, c'est un problème que j'aurais... Ce que j'ai découvert pendant ce temps-là, c'était que j'avais vraiment envie que le problème soit résolu. Mais que finalement, je ne me projetais pas dans ce projet-là. Pourquoi, et je savais pas avant de le faire, donc c'est important, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. J'essaie de me projeter au maximum de m'immerger dans un domaine avant de décider d'y aller. Et je me suis rendu compte que j'aimais pas parler d'argent toute la journée, en fait. Et c'est très différent de travailler pour une néobanque ou même un Stripe qui processe des paiements versus faire quelque chose autour de la personal finance où il y a beaucoup de thématiques, mais 80% des questions tournent quand même autour de comment je deviens plus riche. Alors, il n'y a pas de honte à vouloir devenir plus riche, mais j'avais du mal à trouver de l'intérêt dans parler d'argent et de placement, en fait. Mais ceci dit, je suis très heureuse que des gens talentueux comme Yoann s'emparent du sujet, parce que je pense que le sujet n'est toujours pas résolu et que je cherche moi-même une solution pour justement ne pas y penser toute la journée. Donc voilà. Et à ce moment-là, donc quand je décide, quand je dis à Yoann que je me projette finalement pas tellement, bah je crois que c'est le jour même, ressort cette idée des placards qui est devenue Lago. Et en fait, le problème que résout Lago, c'est de permettre aux équipes business d'avoir accès à la customer data, donc les données d'usage du produit, les données de comportement des utilisateurs, pour pouvoir créer les bonnes interactions, donc créer une campagne d'email, une campagne d'ads, réactiver des users inactifs avec la bonne proposition de valeur et au bon moment. Et chez Conto, on avait quand même beaucoup travaillé le sujet et on avait vécu quelques galères, on avait testé beaucoup d'outils et on s'était dit finalement on a créé un outil en interne et ce serait bien de le productiser, on devrait productiser ce qu'on fait et le vendre. Surtout qu'il y avait des startups qui venaient nous voir et qui nous demandaient comment on avait fait. Et en fait notre réponse était on a fait des choses mais ça n'aurait pas été possible sans 3 ingénieurs dédiés. Et sans le soutien de l'équipe engineering qui était avec qui on s'entendait très bien. Et malheureusement, c'est pas le cas dans toutes les startups. Il y a parfois une dichotomie un peu entre business et tech. Et je salue d'ailleurs Gabriel Klein qui était VP engineering, qui nous a beaucoup soutenus dans toutes nos expérimentations. Donc à ce moment-là, avec Rafi, on se dit est-ce que c'est pas ça le projet, quoi? Et donc on se replonge un peu dans nos notes, on y réfléchit et de manière assez instinctive on se dit finalement on connaît le pain point, on serait nous-mêmes utilisateurs, on est persuadé que demain si on retravaillait pour notre startup les 9 premiers mois, ce qu'on ferait ce serait recréer cet outil en interne, donc finalement on devrait, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc c'était assez instinctif mais pas si soudain puisqu'on avait quand même vécu le pain point pendant plusieurs années. Donc voilà, mais c'était honnêtement, cette période de recherche de projet est toujours très très difficile pour beaucoup de gens et c'est à la fois merveilleux et très difficile.
Et alors, donc tu rentres de France, tu rencontres plein de potentiels co-founders et tu reprends ta trame de tes débuts d'avant Conto pour rencontrer des gens et avoir des idées de projet. Comment est-ce que de ça débouche finalement que tu t'associes à quelqu'un que tu connais très bien professionnellement, qui est Rafi, que tu avais embauché, avec qui tu avais hyper bien bossé?
Je pense que c'est dur de s'associer, honnêtement. Et j'ai même une amie qui en est à sa deuxième entreprise et qui a créé un questionnaire. Il y a d'autres versions de ce questionnaire, notamment créé par First Round, un VC, qui liste toutes les questions que les cofondeurs devraient se poser. Parce qu'en fait, s'associer à quelqu'un, c'est comme se marier et parfois des personnes s'associent après 3 rencontres, par exemple. Or, la décision est très, très engageante. Il y a tellement de choses à savoir. Et pour moi, c'est une décision presque pas aussi importante que se marier, mais c'est un mariage professionnel. Et le faire avec quelqu'un avec qui on n'a jamais travaillé, c'est possible. Il y a des cas où ça marche extrêmement bien. Mais c'est plus de risques. Donc voilà, et puis il n'y a pas uniquement la personne, mais c'est aussi une association assez étrange de à la fois le sujet et la personne. Et il y a toutes les combinaisons possibles, et c'est la beauté de l'être humain, mais ça fait beaucoup d'inconnus quand même. Une boîte, il y a 1000 raisons pour lesquelles finalement on ne se projette plus, etc. Et le fait d'avoir déjà travaillé avec la personne sur un sujet qu'on connaissait, ça enlève quand même certains inconnus. Et je pense que, autant pour... en fait, j'avais même pas besoin de faire de reference check sur Rafi, puisqu'on avait travaillé ensemble et réciproquement. Donc bien sûr, on découvre toujours des nouvelles facettes l'un de l'autre. Mais passer autant de temps à travailler ensemble, c'est quand même beaucoup de... entre guillemets, de temps de dating gagné.
Ok. Et aujourd'hui, vous êtes 2 associés ou vous êtes plus?
On est 2, oui.
Vous êtes 2, ok. Alors, comment vous vous répartissez les rôles? Parce que finalement, quand vous étiez chez Conto, vous étiez grosso modo sur le même métier. Là, les rôles se répartissent comment?
On était sur le même métier et en même temps, comme je l'ai dit un peu plus tôt, Rafi faisait une partie que moi je ne savais pas faire. Donc finalement, et je pense qu'on s'est respecté, on s'est fait confiance et on s'est respecté. Et dès le départ, je savais que bah, il faisait une partie sur laquelle moi j'avais peu d'expertise et c'était fine. Donc aujourd'hui, et le rôle de Rafi a évolué avec le temps chez Conto, il a aussi pris en charge toute une partie plus data, donc BI et data operations. Donc il s'est découvert vraiment une passion pour le sujet et a développé sa propre expertise, comme il sait si bien le faire. Donc aujourd'hui, il gère plus la partie produit chez Lago, et moi je gère la partie business, donc les rôles sont assez définis. Bien sûr, au départ, en early stage, tout est produit et tout est business, mais la répartition se fait de manière assez naturelle. Donc il a, je pense qu'on a tous les deux des expertises, on a un overlap et ça permet de bien fonctionner, et on a des expertises sur l'un et l'autre, on se dit en fait j'y connais pas grand chose et c'est pas une bonne, un bon investissement de mon temps d'essayer de connaître tout dans le détail, donc je lui fais confiance et voilà.
J'imagine que techniquement c'est une solution qui est hyper poussée. Comment on fait du coup d'un point de vue tech, vu que aucun de vous deux n'est tech finalement?
On a, bah, on a des, une équipe technique senior.
C'était vos premières recrues?
Des premières recrues, oui, exactement. Back-end senior qu'on connaissait bien. On se fait aussi accompagner par des personnes très expérimentées côté data. Donc, qui ont vécu le pain point et qui ont accompagné le développement de stack data assez importante. Après, on est, pour reprendre la question des associés, associés ou pas d'ailleurs, on n'est pas du tout, enfin on est très ouvert en fait à trouver quelqu'un qui prendra le lead sur la partie engineering. La vérité, c'est qu'on n'a pas trouvé cette personne pour l'instant. Et que c'était pas un bloqueur pour commencer ni continuer à avancer. Donc bien sûr, si demain on rencontre la personne parfaite au coin de la rue, on fera tout pour l'attirer. Et encore une fois, qu'elle soit employée ou associée, mais c'était pas un quelque chose de bloquant aujourd'hui pour commencer.
Ok, top. Alors, c'en est où aujourd'hui, Lago, là en fin d'année 2021, tu peux nous dire?
On a lancé trois mois après la création, on a lancé une première version du produit pendant YC, donc ce qui nous a permis d'avoir nos premiers clients et nos premiers clients payants. Donc nous, on a pris l'optique de faire payer tout de suite les personnes. Pourquoi? Au-delà du revenu qui est toujours agréable à accueillir, on voulait sélectionner les gens qui étaient sérieux dans l'utilisation du produit. Donc on a lancé cette première version qui était très horizontale, dans le sens où on disait à toutes les entreprises, on va vous permettre de mieux segmenter et synchroniser la customer data pour pouvoir créer des actions business. Et là, on est dans une deuxième itération du produit. On a décidé de verticaliser le produit pour adresser les fintechs uniquement. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'en fait, il y a de plus en plus de fintechs. Deux, les fintechs ont des besoins data très spécifiques. Donc typiquement, énormément de volume de données, des data objects spécifiques, typiquement les cartes, les transactions. Des process spécifiques, donc toutes les fintechs passent par des périodes de KYC assez importantes avec énormément de friction.
Est-ce que tu peux juste nous traduire KYC, s'il te plaît?
Oui, pardon. KYC, c'est le Know Your Customer. Donc, c'est la phase où une fintech va vous demander votre pièce d'identité, justificatif de domicile de moins de 3 mois. Mais attention, la facture d'internet marche bien, mais pas celle de mobile. Toute cette période-là, en fait, qui crée énormément de friction pour une fintech. Et qui fait que souvent, bah, vous en tant qu'utilisateur, vous arrêtez d'interagir avec le service en question. Donc voilà. Donc en résumé, aujourd'hui, on offre un service dédié au fintech, donc qui permet au fintech de mieux utiliser la customer data pour créer des actions business. Donc typiquement, faire en sorte que moins de personnes drop pendant cette période de Know Your Customer. Par exemple, toutes les fintechs qui proposent des cartes de paiement, et il y en a de plus en plus, donc non seulement les néobanques, mais aussi des services d'accounting, exactement, des swiles, des services d'accounting, tout le monde se met à proposer des cartes, Et le gros problème, en tout cas le gros défi que ces services ont, c'est de faire en sorte que les personnes utilisent des cartes. Et on voit bien, plus l'offre est pléthorique et plus c'est dur de faire en sorte que les gens utilisent la carte. Donc nous, on permet aux équipes business de ces entreprises de mettre la main sur la donnée et de pouvoir créer facilement des campagnes d'activation, par exemple pour qu'elles utilisent des cartes ou pour qu'elles reviennent, même si le processus de Know Your Customer est complexe.
Au début de cette réponse, tu as parlé de YC.
Oui.
Tu peux nous dire en deux mots ce que c'est ?
YC, c'est Y Combinator, donc c'est l'incubateur, un des incubateurs les plus connus, les plus prestigieux, pour être totalement honnête, de la Silicon Valley,
donc, ouais.
Qui a notamment accueilli Dropbox, Stripe, Airbnb. Donc nous, on a décidé d'aller à Y Combinator. Pourquoi ? Parce que on a eu la conviction que le marché de l'ago était mondial. Et que pour être sur la scène mondiale et être plus visible sur la scène mondiale, Y Combinator était le meilleur moyen. Donc bien sûr, en France, c'est possible d'avoir accès à un marché mondial et beaucoup d'entreprises l'ont fait. Simplement, c'est un petit peu plus facile d'avoir accès au marché américain, notamment, qui est quand même le plus gros marché des logiciels, en ayant fait Y Combinator. Donc ouais, c'est quelque chose auquel... on réfléchissait, honnêtement, c'était peut-être pas un de mes objectifs de vie, mais c'est quelque chose auquel je réfléchissais depuis longtemps, donc je suis très contente de l'avoir fait. On a notamment pas mal travaillé avec Nicolas de Saint Algolia, là-bas, qui est aussi une grande réussite de la French Tech. Donc voilà, ça nous a permis de... Ils nous ont énormément poussé à lancer rapidement et à faire payer rapidement, d'où le lancement rapide et les revenus rapides. Et ils nous aident encore aujourd'hui à réfléchir sur l'angle qu'on veut prendre.
Ok, top. Et alors, c'est aussi incroyable qu'on le dit ?
C'est assez incroyable. Enfin, la mentalité est incroyable dans le sens où on a l'impression que tout est possible. Et je pense que c'est un peu l'optimisme à l'américaine qui peut être agaçant quand on est français, mais qui fait du bien quand on est entrepreneur, parce que faut être un peu fou pour être entrepreneur. Enfin, il faut savoir que on sait tous que beaucoup d'entreprises échouent, mais on est assez optimiste pour dire qu'on fera partie des gens qui vont réussir. Donc je pense qu'il y a cet optimisme. Je pense que l'écosystème est plus mature, donc il y a plus d'expertise. Et je pense aussi qu'au-delà du coaching et des learnings, il y a des gens incroyables qu'on a rencontrés avant le batch, qui nous ont aidés à nous préparer pendant le batch et même après. Et je pense qu'en tant que tous les entrepreneurs se sentent seuls et ça nous a permis de rencontrer d'autres entreprises qui sont au même stade, qui ont vécu la même expérience et de nouer aussi des relations un peu spéciales avec elles. Donc voilà.
Trop bien. Et alors, cette ouverture du marché US, comment ça se passe ?
On a déjà des... alors, un de nos clients très actifs est une entreprise américaine dont un des investisseurs est Ashton Kutcher.
Ok.
Donc, ils ont... Non, honnêtement, il y a aussi A16Z qui a investi. Donc voilà, mais on trouve ça très drôle qu'Ashton Kutcher soit un des investisseurs. Donc en fait, l'ago, c'est un service que toute entreprise peut utiliser partout dans le monde. Mais en effet, c'est juste qu'on était plus visible sur la scène américaine et que ça nous a aussi crédibilisé pour aller pitcher des startups américaines qui sinon se seraient dit « bon, c'est une startup française, on ne sait pas trop, etc. » Avec le label Y Combinator, ça ouvre quand même certaines portes. Donc peut-être qu'on aura un bureau à New York. Donc nous, on est plus New York à San Francisco. Actuellement, avec la cinquième vague, je ne sais pas trop quand est-ce qu'on le fera, mais c'est dans les cahiers, comme on dit.
Super projet, bravo. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on a comme gros objectif pour l'ago en 2022 ?
Cartonner, je sais pas. Faire en sorte que toutes les En fait, l'idée de Lego et aussi l'ambition de Lego, elle vient du fait que parce que les étoiles étaient alignées chez Conto et parce qu'on avait les moyens, on a réussi à créer un outil pour la data top qui permettait au team business vraiment de, bah, d'être autonome et d'itérer sur des campagnes et d'être très performante. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment amener cette expertise dans toutes les autres fintechs. Qu'elles n'aient pas besoin que toutes les étoiles soient alignées, qu'il y ait un gros round de funding, qu'il y ait un Rafi, Nento et un Gabriel réunis pour permettre ça. Donc on aimerait vraiment apporter toute cette expertise à toutes les fintechs qui se créent. Et il y en a énormément, donc voilà, c'est juste ça. Juste ça.
Et c'est déjà pas mal. Pour finir, est-ce que tu pourrais nous dire une ressource marquante que tu aimerais partager avec nos auditeurs, un podcast, un livre, un compte LinkedIn, ce que tu veux, une business, une pas business.
Il y a le livre High Growth Handbook de Ella Gill, je pense.
Ok.
Qui est hyper condensé. Qui est en fait un résumé des interviews qu'il a eues avec plusieurs entrepreneurs, acteurs de la tech, et qui est vraiment très condensé en learnings. Alors, c'est plutôt post-product market fit, donc ça ne va pas trop aider dans la phase pré-product market fit, mais c'est vraiment, je pense, un livre qu'on devrait tous lire, que tous les entrepreneurs devraient lire. Et en tout cas, je l'ai lu une fois, je pense que je le relirai plusieurs fois. Et petite note, il n'y a pas vraiment de livre pré-product market fit, et je pense que chaque entreprise et chaque trajectoire est différente. Donc ça explique peut-être pourquoi il n'y en a pas. Donc voilà, un des... Bon, je digresse un peu, mais un des learnings de YC, c'est qu'énormément d'entreprises ont commencé avec un concept et ont eu un autre ensuite. Et que c'est normal de parfois de changer d'idée ou d'itérer sur l'idée. Donc c'est vraiment... Ils ont normalisé, je me souviens, une phrase d'un des partenaires de YC, c'est « Pre-product market fit, y a changé l'idée et il n'y a pas vraiment de pivot, en fait, ça devrait être lightweight. » Et pour eux, un pivot, c'est Slack qui commence comme un jeu vidéo et qui a du revenu, qui a 100 employés et qui finit par devenir Slack. Donc ça, c'est un vrai pivot. Mais tout ce qu'il y a avant, en fait, c'est l'itération. Et tout ce qu'il y a après product market fit, c'est l'itération et c'est normal de tester. Et... pour finir la digression, il y a Amplitude, je ne sais pas si vous savez, mais bon, ils ont IPO. Et à la base, c'était quand même un service de réalité virtuelle. Donc voilà, donc c'est la période. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a des gens qui écoutent sur la période pré-product market fit, elle est un peu chaotique. Il y a énormément de tests. Et qui dit test dit ben, parfois failure. Mais l'important, c'est d'apprendre et de continuer à itérer et d'avancer. Donc, c'est aussi quelque chose que YC nous apprend. Voilà.
Canon. Et une œuvre non business à partager?
Alors, toujours sur mon amour du Vietnam, il y a une auteure que j'adore qui s'appelle Lynn Papin, qui a écrit deux livres sur le Vietnam, je crois. Dont un qui s'appelle Les eaux des filles et qui raconte le début de son enfance au Vietnam, à Hanoï, puis ensuite quand elle est venue en France, et les questions d'identité. Et je pense que je me suis... À la fois, c'est un beau voyage, alors si vous rêvez de voyager, et que malheureusement, pour certaines restrictions, vous ne pouvez pas, je vous conseille le livre, ça vous fera voyager à Hanoï et dans l'histoire. Et pour ceux que ça intéresse, ces questions d'identité, d'être... Bah, personnellement, je suis en France, je ne suis pas vraiment française, Vietnam, je ne suis pas vraiment vietnamienne. Donc, c'est un beau livre assez poétique sur ces questions. Voilà.
Top, Anto, merci infiniment d'avoir participé à l'exercice.
Merci. À toi.
On a appris beaucoup, beaucoup de choses. Si vous avez des questions à l'écoute de cet épisode, n'hésitez pas à me les envoyer directement. Je me ferai un plaisir de relayer pour ne pas complètement spammer Anto. Cela étant dit, moi, je suis ravi d'avoir entendu cette histoire. J'espère que vous aussi. Merci.
Merci.
Vous venez d'écouter un épisode de Lieutenant. Si ça vous a plu et que vous voulez nous aider, Vous pouvez le partager à 3 personnes autour de vous, inscrire vos amis de force au podcast sur leur smartphone et me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify avec un gentil commentaire. C'est ça qui me rendra visible dans les classements. Si vous voulez être tenu au courant, vous pouvez m'écrire à younes@avisio.fr et je vous enverrai le lien de l'épisode à sa sortie. Aussi, si vous ou vos équipes voulez être accompagné par l'un des meilleurs managers de la tech pour monter en compétence sur votre métier et apprendre les techniques des meilleures boîtes de la place, Avisio Mentoring est là pour vous à la même adresse. Je suis Younes Elgarty et je vous dis à bientôt.